Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur le 94 FM, je suis Manu et c'est l'heure de l'émission 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale de Canal B. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Il est midi 15, nous sommes le mercredi 3 juin, ou jeudi 4 si vous nous écoutez en rediff. Pour cette édition, je suis en compagnie de Manon, Julie et Hugo. C'est elles et eux qui ont préparé les différents formats que vous entendrez pendant les prochaines 30 minutes. Manon, dans l'interview du jour, tu t'entretiendras avec Anne-Laure de l'association La CIMADE.
Elle est avec nous en plateau et ce n'est pas la première fois qu'on reçoit La CIMADE sur ce plateau d'ailleurs, mais c'est la première fois qu'on reçoit Anne-Laure. Et ensemble, on va parler du rapport commun sur les centres de rétention administrative et notamment revenir sur la situation du CRA rennais.
Et pour la deuxième partie de l'émission, on aura le droit au au revoir de Julie et Manon qui finissent leur service civique dans quelques jours.
Oui, aujourd'hui c'est notre dernière émission en direct, notre dernier 3 en 1. Alors pour l'occasion, on s'ouvre à vous, chers auditeuristes, en cette fin de mission volontaire en service civique.
Vous aurez le droit à ces adieux déchirants en fin d'émission aux alentours de 12h40. Mais avant de dire au revoir, nous allons accueillir un nouveau membre de notre équipe 3 en 1. Hugo, bienvenue Hugo.
Bonjour, merci. Vous n'allez pas me croire, mais on m'a proposé d'écrire un billet pour la radio. Enfin, mon premier billet pour la radio. Et donc après 2 jours et 2 nuits passés sur Internet à chercher ce qui pouvait s'apparenter au billet d'humeur pour les nuls et pour une raison qui m'échappe encore à finir sur l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, un point commun revenait constamment. Faire court, être synthétique. Point. Bon, ma première épine dans le pied à laquelle j'allais devoir me piquer. Oui, parce qu'effectivement, j'aime autant vous le dire et pas vous prendre en traître, faire court, j'y arrive pas. Je me perds, je tergiverse, je déploie toute mon énergie dans l'insignifiant et le dérisoire. Et non, je rentrerai pas dans l'interminable digression qui me titille et qui vous titille aussi, hein, j'en suis sûr, concernant l'expression « faire court ». Je suis pas spécialement convaincu que mon passé anecdotique de prof au collège vous colle au plafond. Donc, survitaminé de stress, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis donné, pour la première fois de ma vie, la mission périlleuse de « faire court ». Vous le voulez, bah vous l'aurez, mon esprit de synthèse. Et ça commence maintenant. Oui, l'introduction, c'était pour poser un peu les bases, faire connaissance et définitivement tordre le cou au mythe de l'homme productif que je tente désespérément d'incarner depuis quoi ? Ah oui, 40 minutes, 40 secondes déjà. C'est fou comme le temps passe vite avec vous. Bien évidemment, je peux pas ne pas en parler. Oh, puis allez, c'est sûrement mon premier et dernier passage à une heure de grande écoute. Je saute sans filet. Je ne dois te faire court pour une personne qui m'écoute tout particulièrement aujourd'hui et qui passe au crible chacun de mes troubles orthophoniques. Ma maman. Bah oui, je n'ai pas honte de le dire, oui. J'ai 40 ans, je parle à la radio pour la première fois, je me liquéfie de stress, j'ai proposé à ma mère d'en être témoin et je lui lis son horoscope. Je l'entraîne dans ma chute, quoi. Et là, il y a deux mondes qui se dessinent. Parce que nous, bon, ok, on est là, c'est léger, bon enfant, convivial, mais il existe une autre réalité, une réalité plus pernicieuse, où dans les coulisses, tapis dans l'ombre, ma mère décrypte, décortique, analyse le moindre bredouillement. Elle passe au peigne fin une hésitation dans la voix, un bafouillage malencontreux, et qui saura très bien me dire au final « Quand je pense que tu m'as demandé de t'écouter au même moment que Jean-Luc Reichmann aux 12 coups de midi, Cyprien, lui, a trouvé sa 5e étoile. » Et encore, réjouissons-nous que ce soit pas filmé. Il y aurait une déferlante de remarques, pas rasée, peu coiffée, vêtements mal accordés et probablement une suspicion de crème auto-bronzante mal appliquée. Je vous jure, en parler me rend fébrile. Alors en y regardant de plus près, je me suis demandé si faire court était toujours une bonne idée. En tout cas, Edgar Morin écrivait qu'à force de simplifier les choses, on finit parfois par mutiler les réalités. J'ai décidé de retenir cette phrase. Reste à savoir ce que ma mère en pensera. Donc si les 2 minutes 30 qui viennent de s'écouler ont été les plus longues de votre vie et que vous êtes déjà passé à autre chose, abstenez-vous de me le dire, faites-en l'économie des mots, ma mère s'en chargera très bien.
Donc est-ce qu'on dit merci maman ?
On dit merci à toutes les mamans.
En tout cas merci Hugo pour ton premier saut dans le vide et j'ai justement un morceau de musique pour nous aider à garder de la hauteur. Vous venez d'écouter Le Saut du Pigeon du groupe Jen, un quatuor 100% féminin au rock hypnotisant qui d'ailleurs était passé à l'Antipode fin 2024. C'est maintenant l'heure de l'interview qui va être réalisée par Manon. Tu reçois Anne-Laure, responsable régionale sur l'action en rétention pour la CIMAD en Bretagne. Ce midi, on va parler du rapport commun sur les centres de rétention administrative.
Et comme chaque année, les associations Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, le groupe SOS Solidarité, ASFAM, la CIMAD et Solidarité Mayotte publient un rapport documentant les principales problématiques observées dans les centres et locaux de rétention administrative. Anne-Laure, tu n'étais pas encore venue sur le plateau de 3 en 1 et aujourd'hui tu viens en studio en direct pour répondre à nos questions à propos du rapport commun sur les centres de rétention administrative qui a été publié le 19 mai dernier sur l'année 2025. Donc ce rapport, il porte à la fois sur les centres de rétention administrative, donc les CRA, mais il porte aussi sur les locaux de rétention administrative. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur ce que c'est un CRA ?
Bonjour et merci de me recevoir. Alors un CRA, c'est un lieu d'enfermement dans lequel l'administration, et en l'occurrence les préfectures, enferment des personnes étrangères, non pas parce qu'elles auraient commis un crime ou un délit, mais simplement parce qu'elles n'ont pas des papiers en règle.
Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un local de rétention administrative et un centre de rétention administrative ?
Alors le local de rétention administrative, c'est une sorte de mini CRA. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des lieux avec beaucoup moins de place et surtout dans lesquels les personnes ne peuvent rester que quelques jours. La durée maximale, c'est 8 jours maximum et en général, ils passent par un LRA, local de rétention, avant d'être transférés dans un centre de rétention si entre-temps, ils n'ont pas été expulsés.
Et du coup, lors de vos précédentes chroniques qu'avait fait Colline sur 3 en 1, j'avais l'impression que les CRA, ça ressemblait beaucoup à des prisons pour des personnes étrangères sans titre de séjour. Toi, comment est-ce que tu pourrais nous décrire ces lieux ?
Alors effectivement, en théorie, le CRA, c'est pas une prison, mais en pratique, ça y ressemble énormément et de plus en plus. Je prends l'exemple du CRA de Rennes, qui est celui que je connais le mieux, effectivement, c'est un exemple assez parlant, puisque auparavant, c'était assez ouvert à l'intérieur, les personnes se déplaçaient, etc. Et puis au fil des travaux, on a vu arriver des grands grillages, toutes les parties sont sectorisées, de sorte que les personnes à l'intérieur même du CRA peuvent se déplacer qu'escortées par la police. Donc de plus en plus, il y a très peu d'activités, il y a beaucoup d'ennuis, il y a de l'attente et beaucoup d'angoisse. Et donc de fait, ça ressemble énormément à une prison, des vidéosurveillance, des caméras partout. Et ce que peuvent dire les personnes retenues, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui sortent de prison et qui arrivent, elles peuvent dire que c'est pire que la prison, parce qu'il y a en plus le stress de pouvoir être embarqué et renvoyé dans son pays d'origine.
Et du coup, justement, c'est quoi la différence entre une prison et un CRA au niveau des... Bon, c'est pas une peine, normalement, quelqu'un qui va dans un CRA ?
Non, c'est pas une peine. Effectivement, la prison, c'est pour le coup une peine pour des personnes qui ont commis un crime, un délit, alors des stupes, des vols, des choses parfois beaucoup plus graves. Alors que dans les centres de rétention, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement parce que les personnes n'ont pas de papier qu'elles sont enfermées dans l'attente de l'organisation d'une expulsion. En théorie, cette durée, elle doit être vraiment la plus courte possible et juste pour préparer l'expulsion.
D'accord. Et donc le rapport commun qui est publié chaque année par plusieurs associations, il s'adresse à qui ?
Alors il s'adresse à la fois au pouvoir public, mais aussi, je dirais, aux citoyens, citoyennes. La réalité, c'est qu'on a peu de données sur ce qui se passe dans ces centres de rétention et que seules les associations qui y vont, c'est-à-dire la CIMAD, mais aussi les quatre autres, on essaye de faire connaître au grand public la réalité de ce qui s'y passe, de recueillir des chiffres, de pouvoir objectiver au maximum la réalité de ces enfermements et surtout montrer ce qui, de notre point de vue, ne devrait pas continuer à se passer, c'est-à-dire qu'on enferme des personnes, souvent pour rien, puisque la plupart des personnes sont libérées, et puis parce que les conditions d'enfermement sont de plus en plus indignes, et 2025, c'est encore l'aggravation des violations des droits des personnes dans les lieux d'enfermement.
Donc ce rapport, il offre des chiffres clés sur la situation de tous les centres de rétention administrative en France, et notamment sur celui de Rennes. Donc qu'est-ce qui t'a personnellement le plus marqué cette année dans le CRA rennais ?
Un des chiffres le plus marquant, c'est la durée moyenne du temps passé en rétention au CRA de Rennes, puisque en 2024, la durée de séjour moyenne, c'était à peu près 19 jours, et on est passé à un peu plus de 30. Et cette durée, elle s'explique notamment, mais peut-être on en parlera plus en détail plus tard, mais sur le fait que de plus en plus de personnes sont restées le maximum légal de l'enfermement, qui est actuellement de 90 jours, pour être au final libérées, parce que l'expulsion n'a pas pu être organisée. Ce qui montre bien un recours à l'enfermement vain, systématique, qui est un peu une forme d'acharnement.
Et dans le CRA de Rennes, il y a une spécialité, c'est que, enfin une spécificité plutôt, c'est qu'il n'y a que des hommes. Est-ce que c'est depuis toujours? Et en fait, est-ce qu'il y a une raison précise de pourquoi il n'y a que des hommes?
Alors c'est de moins en moins une spécificité parce que il y a beaucoup moins de places pour les femmes que pour les hommes sur tout le territoire national. À Rennes, il y a eu des places femmes et même familles. Je crois jusqu'à, c'était avant que j'arrive, donc peut-être 2022-2023, il y avait quelques places pour les femmes et même familles, donc avec enfants. Et puis une loi de début 2024 a interdit l'enfermement des enfants en centre de rétention, sauf à Mayotte, où c'est encore le cas jusqu'en 2027. Mais, et du coup, il n'y a plus ces places familles et tout a été transformé en place hommes.
On reviendra au cas de Mayotte tout à l'heure, mais est-ce que du coup il y a plus de personnes en général qui sont enfermées ou est-ce que c'est il y a pas eu forcément d'augmentation par rapport à 2024 ou en 2025
au niveau du territoire national ou à Rennes?
À Rennes,
à Rennes partout, mais à beaucoup Rennes, plus de personnes enfermées. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on était sur un peu plus de 400 personnes. Ouais, en 2000. Là, on est à 480 personnes enfermées, où on était à un peu plus de 300 l'année dernière. Donc, on a une augmentation, mais qui correspond aussi à un agrandissement. Enfin, il y a eu des travaux au CRA de Rennes avec des places gelées en 2024, et là, on est revenu vraiment au taux plein, quoi.
D'accord. Donc, oui, c'est un taux qu'il y avait déjà eu avant et qui revient, en fait.
Ouais, on est à 56 places effectives.
D'accord.
Actuellement.
Et quand on voit justement que près de 62% des personnes finissent par être libérées au CRA de Rennes, qu'est-ce que cela nous dit du recours à la rétention administrative?
Alors pour le CRA de Rennes, c'est un petit peu supérieur à la moyenne nationale, ce qui montre que Rennes n'est pas un très bon élève, entre guillemets. Ça nous montre surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfermement maintenant, c'est devenu une sorte de pierre angulaire de la politique migratoire, qui sert aussi à un discours sécuritaire qui permet de dire que, en gros, les personnes sans papier seraient des personnes dangereuses à enfermer. Et la réalité, ça nous montre que, en fait, plus de 60% des personnes sont libérées, alors soit par un juge, ce qui montre bien qu'il y a eu des violations des règles et de la loi qui organise l'enfermement, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout des 90 jours.
On revient en plateau pour continuer à parler des centres de rétention administratifs après une courte pause musicale.
Thank you.
C'était le trio indonésien Thimarlows qui interprétait le morceau Summer. L'été approche, on espère qu'il va rester. Vous êtes toujours en 3 en 1, toujours en compagnie d'Anne-Laure de l'association La Cimade. Juste avant cette pause musicale, vous parliez du centre de rétention administrative de Rennes. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le CRA rennais.
Et oui, malheureusement. Et du coup, tu en as parlé tout à l'heure, Anne-Laure. Au CRA de Rennes, la durée moyenne de rétention administrative est passée d'environ 19 jours en 2024 à 30 jours, un peu plus même, en 2025. Et à quoi il est dû, cet allongement de la durée de rétention administrative ?
Alors, ce qui est marquant aussi dans les chiffres à Rennes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une augmentation énorme du nombre de personnes qui sont restées 90 jours, qui est la durée actuelle hein, maximale d'enfermement et qui d'ailleurs risque de passer à 210 jours. Je crois que l'augmentation, elle est de 4% en 2024 à 15%. Donc c'est énorme. Et en l'occurrence, il y a une spécificité sur l'année 2025 qui est la situation des personnes algériennes, puisque les personnes algériennes, ça reste la nationalité qui est la plus enfermée en CRA en Hexagone, et notamment à Rennes, où je crois qu'elle représente à peu près un peu moins d'un tiers, mais 27% des personnes enfermées en CRA à Rennes. Il y a eu en fait une situation diplomatique l'année dernière qui fait que toutes les relations étaient coupées entre la France et l'Algérie et que la dernière expulsion pour l'Algérie depuis le CRA de Rennes a eu lieu en mars dernier et ensuite il n'y en a eu aucune. Et pour autant, les préfectures ont continué d'enfermer des Algériens, Algériennes, alors Algériens à Rennes. Et puis les juges ne libéraient pas malgré le fait que nous soutenions et les avocats des personnes qu'il n'y avait pas de perspective raisonnable d'expulsion vers l'Algérie. Or, c'est un critère légal. On ne peut enfermer que des personnes pour lesquelles il existe une possibilité de l'éloigner vers son pays d'origine. Et donc, elles sont restées, pour la plupart, soit elles étaient libérées très vite pour des problèmes de procédure, etc., soit elles restaient 90 jours et elles étaient libérées à l'issue de cette période.
Et donc, justement, ce nombre de personnes algériennes qui sont enfermées dans les CRA, c'est dans toute la France que ça concerne
En Hexagone.
En Hexagone.
En Outre-mer, c'est d'autres nationalités, mais en Hexagone, c'est majoritairement des Algériens. Ouais.
Et cet allongement dont tu parlais tout à l'heure de 90 jours qui pourrait potentiellement aller à plus de 200 jours, qu'est-ce que ça peut changer pour les personnes qui sont concernées ?
Bah alors, nous, ce qu'on craint, c'est une augmentation des tensions, du désespoir dans ces lieux d'enfermement, puisque 90 jours, c'est déjà très long. 210 jours, les lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas que la prison, c'est bien, hein, mais en tout cas, ils sont conçus à l'origine pour des durées très courtes d'enfermement. Hein. La loi a étendu progressivement la durée. Au départ, c'était quelques jours, une semaine, puis 45, 90, et là, 210 jours. C'est une durée très très longue, avec des équipements qui ne sont pas adaptés, pas d'accès aux soins, des personnes qui ont des troubles psychiques. Vraiment, notre crainte, c'est ça, c'est le désespoir et du coup l'augmentation de violence, d'actes auto-agressifs, de passage à l'acte, suicide, etc.
Et du coup, selon toi et même selon vous en général, c'est quoi la raison, c'est quoi l'intérêt de la justice de rallonger ces durées de rétention
Nous, on pense qu'aujourd'hui, la rétention, c'est devenu vraiment un outil d'affichage et qui sert une rhétorique gouvernementale qui tend à en fait faire un peu son beurre sur le dos des personnes étrangères en disant « ce sont des personnes dangereuses, il faut les enfermer », qui essayent toujours de dire qu'on va les expulser, etc. Même si on voit bien que les chiffres montrent que ce n'est pas le cas. Ils restent plus longtemps, mais pour autant, ça n'augmente pas le nombre d'expulsions.
Et en plus, il y a aussi ce fait de pouvoir faire partir la personne et qu'elle revienne après pour que ça dure encore plus longtemps, en fait.
Ouais, une des choses aussi assez marquantes, vraiment, pour le CRA de Rennes, c'est une augmentation très importante des personnes qui viennent plusieurs fois au CRA. C'est-à-dire qu'on les voit une première fois où elles ont été enfermées dans d'autres CRA et elles viennent quelques temps après avoir été libérées. Donc, sur la base de la même mesure d'éloignement, on peut faire ces 90 jours ou être libéré à un moment, sortir 2 mois, être de nouveau enfermé, etc. et ainsi de suite, y compris pour des personnes, comme je l'ai dit, les Algériens, notamment, mais pas que, pour lesquelles on sait qu'il n'y aura pas d'expulsion possible. On a eu en début d'année une personne, un Palestinien au CRA, pour lequel on savait très bien qu'il n'y aurait pas d'éloignement possible et ils l'ont laissé enfermer 1 mois avant de le libérer. Donc,
Et justement, tu viens de parler des Algériens. Est-ce que leur situation, ce n'est pas quelque chose de symbolique en fait, sur l'ensemble des CRA en France ?
Bah, c'est assez symbolique de ce que je viens de dire, c'est-à-dire cet acharnement à enfermer des personnes alors même qu'on sait qu'on ne pourra pas les expulser.
Et du côté des Outre-mer, il y a des chiffres qui sont très choquants, notamment du côté de Mayotte. On parle d'environ 26 000 personnes qui sont enfermées sur l'année 2025, contre environ 16 000 dans l'ensemble des CRA de l'Hexagone. Comment est-ce qu'on explique un tel écart ?
Alors, je ne serais pas forcément très bien placée pour donner des explications précises parce que je ne suis pas sur ce territoire et c'est une autre association que la CIMAD qui intervient. Mais en tout cas, on est sur des expulsions qui se font de façon industrielle, c'est-à-dire que les personnes arrivent, elles restent quelques heures et elles sont tout de suite reconduites par bateau. Mayotte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore un lieu où des enfants peuvent être enfermés, des familles. Voilà.
Et justement, ce cas des enfants, c'est le seul endroit où il y a encore des personnes mineures qui peuvent être enfermées. Il y en a plus de 3000 à Mayotte. Pourquoi il y a encore cette autorisation de...
Il y a eu un report, je dirais, c'est les spécificités usuelles de nos anciennes colonies. Voilà. Et je dis quand même, il y a d'autres CRA où on a des mineurs. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se disent mineures, mais dont la minorité n'est pas reconnue. Donc on peut avoir quand même des jeunes hein, de 15, 16, 17 ans qui affirment leur minorité, mais ce qui est contesté par l'administration.
Et du coup, hors Hexagone, c'est autorisé, mais en Hexagone, c'est interdit.
C'est interdit, okay. Ouais.
Et depuis quand c'est interdit
Depuis une loi de janvier 2024.
D'accord. Il y a une spécificité aussi en ce moment à Nantes, avec un local de rétention administrative qui a ouvert en février après plusieurs mois de mobilisation. Et il y a un CRA qui devrait potentiellement bientôt être en construction pour être ouvert en 2027. Quelles sont les perspectives qu'on entrevoit dans la région ?
Alors, d'une manière générale, le gouvernement a annoncé un objectif d'augmenter le nombre de places de rétention à 3000 pour 2028-2029. Aujourd'hui, on est à peu près à 2100. Et donc il y a des projets de construction de nouveaux CRA un peu partout, il y a des LRA, des locaux de rétention qui ouvrent aussi un peu partout sur le territoire pour augmenter un peu le maillage territorial. Et puis il y a aussi sur Rennes un projet d'agrandissement du CRA pour l'année prochaine. Donc il y a ce projet à Nantes qui est un méga CRA, c'est comme ça qu'on les appelle, de 140 places et qui est effectivement un de ces nouveaux modèles de CRA construits sur vraiment une architecture ultra sécuritaire, très carcérale et qui fait l'objet actuellement d'un contentieux. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation locale assez importante contre ce projet et la CIMAD est partie prenante aussi à cette contestation de projet.
Julie, tu as une question, je crois.
Oui, au début, Anne-Laure, tu disais que le rapport, il était à destination du grand public. Pourtant, ces centres, ils restent largement méconnus. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ?
Bah, d'abord, parce qu'ils ne sont pas facilement accessibles. Donc nous, les associations, on y est. Mais évidemment, les pouvoirs publics ne communiquent pas énormément là-dessus. Et puis aussi parce que les personnes qui y sont enfermées sont des personnes hyper précaires, qui ont peu de relais. Qui sont des personnes, quand elles sortent de rétention, elles restent sans papier la plupart du temps. Et donc, elles ne vont pas contacter les médias, elles ne vont pas se monter en asso. Enfin, c'est assez compliqué, en fait, d'avoir des mobilisations par ces personnes-là, vu leur situation. Et peut-être aussi, je ne sais pas, un désintérêt pour certaines questions, ou en tout cas, un manque d'intérêt, malheureusement.
Et pour terminer, après la publication de ce rapport commun, qu'attendez-vous concrètement des pouvoirs publics, si vous en attendez encore quelque chose ?
Alors, notre positionnement à la CIMAD, il est clair, on est pour la fermeture des centres et locaux de rétention. Mais je dirais que malheureusement, les pouvoirs publics, actuellement, on n'en attend plus grand-chose. En revanche, ce qu'on aimerait, c'est une mobilisation citoyenne et une sensibilisation un peu plus large du grand public. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à Rennes, on organise avec Utopia 56 une soirée de soutien aux personnes exilées qui aura lieu le 17 juin à partir de 19h30 à Grabuge, et qu'actuellement à Nantes, il y a aussi un collectif anti-CRA qui organise pas mal d'événements publics de sensibilisation et d'information.
Merci Anne-Laure d'avoir répondu à mes questions, à nos questions même.
Merci à vous.
Merci Anne-Laure d'avoir été avec nous sur le plateau de 3 en 1. Et d'ailleurs, si vous souhaitez écouter les deux chroniques réalisées par Colline de la CIMAD ces derniers mois, vous pouvez les retrouver sur le site internet canalb.fr. Je donne maintenant le micro à Julie et Manon, pour qui c'est la dernière émission. Comment est-ce que vous vous sentez quelques jours de votre départ ? Julie, j'ai l'impression que tu as quelque chose au fond du cœur.
Vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma mission de service civique aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Nina, Morgane, Lola, Valentine, Apolline, Alexane, Léa, Yann, Hugo, PM, Théo, Quentin, Alexis Lumière, Benjamin Mout, Kat.
Tu vas pas nous faire tous les salariés, stagiaires et bénévoles de Canal B quand même?
Et bien sûr toi, Manon. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, comme cette émission de 3 en 1, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Mylène Farmer, si nous entend, Mylène, il n'est jamais trop tard pour répondre à ma demande d'interview. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, j'interview la vie, je chronique la vie, je radio la vie, je potard la vie.
Et toi Manon, la mission de service civique se finit aussi pour toi, qu'est-ce que tu vas faire après?
Eh bien comme pour beaucoup, j'attends les résultats à mon master qui tombe aujourd'hui d'ailleurs. Je vais retourner sur les bancs de l'école, ça faisait longtemps, ça me rend un peu nostalgique d'une fable méconnue de ma contrée lointaine.
Une fable de La Fontaine?
Non, ça commence comme ça je crois. Maître Corbeau...
Ah mais oui.
Non, c'est pas ça, je reprends. Mettre l'étudiant sur un arbre perché tenait en son bec une carrière. Maître Master, par l'avenir assuré, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur l'étudiant, que vous êtes doué, que vous me semblez savant. Sans mentir, si vos compétences se rapportent à votre expérience, vous êtes l'élu du système académique français. À ces mots, l'étudiant ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber ses projets. Le master s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un refus, sans doute. L'étudiant, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. »
Bon, ça fait un bon état des lieux de la situation des étudiants et étudiantes en France, mais cette expérience en tant que service civique, ça vous a quand même apporté pas mal de choses.
Mais oui, et d'ailleurs, si aujourd'hui, c'est la première expérience radio d'Hugo, pour nous, bah, c'est la dernière. Mais je crois qu'on se rejoint bien sur un point, c'est que l'expérience est courte.
Bon, après, on vous dit au revoir, alors que pour nos auditoristes qui nous écoutent actuellement en direct, c'est peut-être la première fois que vous entendez le son de nos voix, alors qu'on passe sur vos ondes depuis octobre.
C'est peut-être une première pour certaines personnes, mais je suis prêt à parier que ce ne sera pas la dernière. Bravo pour tout ce que vous avez fait cette saison, et je vous souhaite plein de réussite pour la suite. Trois en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anne-Laure de la CIMAD d'avoir été notre invitée et à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission. Julie, Manon, Nina et Hugo. Merci à Pierre Maël qui était à la technique de cette émission en direct. J'espère que cette émission vous a plu, surtout que c'était ma première présentation en direct depuis très longtemps, donc merci de l'avoir suivie. Si vous voulez la réécouter, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à vous.